Il est 16h, c'est le moment de vos informations locales et régionales avec Alexis Goyer. Alexis, il y a le syndicat des professeurs de l'UQO qui demande à Bernard Drainville de retirer le projet de loi 23.
Les membres du syndicat des professeurs de l'Université du Québec en Outaouais ont adopté une résolution pour demander au ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, de retirer le projet de loi 23 intitulé « Loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique et édictant la loi sur l'Institution nationale d'excellence en éducation ». Selon Charles-Antoine Bachand, professeur en fondement de l'éducation à l'Université du Québec en Outaouais et délégué syndical pour le département des sciences de l'éducation, les collègues des autres départements comprennent bien les enjeux soulevés par le projet de loi 23, dont celui de la création de l'Institut national d'excellence en éducation.
Tous les collègues des autres départements ont bien vu les enjeux qui y étaient associés, le pouvoir, dans le fond, que donnait le projet de loi 23, autant à l'Institut, mais tout particulièrement au ministre, d'orienter la formation qui sera offerte dans les universités et aussi d'orienter certains travaux de recherche, de mettre en valeur certains travaux de recherche plus que d'autres.
Le projet de loi 23 s'intéresse à la formation en enseignement et s'ingère dans le processus de création des programmes d'études, ce qui relève présentement des universités. Charles Bachand résume le processus actuel.
Tous les programmes de formation universitaire rendent des comptes, sont imputables soit à la population, soit à d'autres universitaires, soit à des instances internes, soit à des autres professionnels quand il y en a. En éducation, il n'y a pas d'autres professionnels, donc essentiellement, on rend des comptes à nos pairs ou à une instance qui s'appelle le CAPFE, le Comité d'agrément de la formation enseignante.
L'Institut national d'excellence en éducation vise à remplacer l'actuel Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement. M. Bachand, comme plusieurs de ses collègues, émet des doutes sur la représentativité de la nouvelle instance.
Quand on regarde le conseil d'administration, par exemple, de l'Institut tel qu'il est projeté à l'heure actuelle dans le projet de loi 23, on parle d'un conseil d'administration de 9 intervenants. Il y aurait un prof d'université puis un enseignant qui y siégerait ou un enseignant qui y siégerait. On est loin de la représentativité qui existe au sein du comité d'agrément à l'heure actuelle.
M. Bachand se désole du silence de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry.
On est aussi tout particulièrement déçu du silence de Pascale Derry, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui devrait essentiellement militer pour la liberté académique, la liberté universitaire, défendre dans le fond ces préoccupations-là puis les faire valoir auprès de ses collègues.
Le projet de loi 23 est présentement à l'étude à la Commission de la culture et de l'éducation.
On parle maintenant de ce rapport d'enquête qui dénonce les actes répréhensibles d'une entreprise à l'égard de la municipalité de Blousy.
La Commission municipale du Québec a produit un rapport d'enquête à la suite d'actes répréhensibles dont la municipalité de Blousy aurait été victime de la part d'administrateurs de l'entreprise Carrière Tremblay et Fils. Ce rapport contient les conclusions et les recommandations de la Commission pour éviter que de tels actes se reproduisent. Carrière Tremblay et Fils s'est vu octroyer le contrat de déneigement de la municipalité pendant plusieurs années et était dans une situation de monopole. À l'été 2022, la municipalité tente de faire diminuer le prix du contrat. L'entreprise aurait alors fait une offre que la municipalité s'est retrouvée dans l'obligation de refuser puisqu'elle enfreint le Code municipal du Québec. Par la suite, les administrateurs de Carrière Tremblay et Fils auraient communiqué régulièrement de façon arrogante et méprisante avec la municipalité pour décourager l'affichage du contrat. Ils auraient également affirmé que certains employés coûtent trop cher juste pour brasser de la marde et auraient insulté la directrice générale, ce qui l'aurait poussé à démissionner. Le maire de Blousy, Laurent Fortin, explique que ces événements portent préjudice à la municipalité dans le recrutement de personnel.
Je trouve ça déplorable qu'on soit rendu là, on est en 2023. Ça va créer des préjudices à la municipalité parce qu'on l'a vu, même la semaine passée, on a vu l'expérience. Là, il y avait une personne très compétente qui voulait prendre le poste de DG par intérim. Suite à la lecture du rapport d'enquête, il s'est désisté, il a dit non. Il dit « moi, je ne veux pas là ».
La Commission municipale du Québec conclut que ces agissements représentent un manquement grave aux normes d'éthique ainsi que des gestes d'intimidation visant à influencer les décisions du conseil municipal. L'enquête démontre que ces comportements entraînent des répercussions importantes sur les fonctionnaires qui ont cessé de circuler librement dans la municipalité et qui songent à démissionner. Laurent Fortin mentionne que cette histoire est coûteuse pour la municipalité.
Ça va engendrer des frais à la municipalité. Les affaires municipales veulent qu'on engage un procureur au dossier. Ça, c'est des frais additionnels à la municipalité qu'on n'avait pas besoin.
Le maire Fortin a laissé entendre que d'autres procédures sont en cours concernant Carrière Tremblay Fils. L'entreprise n'a désiré émettre aucun commentaire.
Produits forestiers résolus débute le transport du bois brûlé vers Maniwaki.
La récolte de bois brûlé par les incendies a débuté au mois d'août pour Produits forestiers résolus. Depuis quelques jours, l'entreprise rapatrie ses récoltes à la scierie de Maniwaki. Le bois consumé par le feu ne peut être récupéré. Le directeur des opérations forestières chez Produits forestiers résolus, Jean-Philippe Étier, explique que ce qui est récupérable, c'est le bois qui n'est que partiellement incendié.
Il faut faire attention à ce niveau-là. Donc, on récupère des tiges que le feu a passées, des tiges qui ont brûlé, les épines, le feuillage des arbres brûle, mais l'arbre en tant que tel, lui, ne brûle pas. Elle a noirci, mais la fibre de bois, il ne faut pas qu'elle ait une dégradation.
Le longicorne représente le plus grand défi à la récolte du bois brûlé parce qu'il s'attaque à la qualité du bois et à sa valeur.
Quand on tombe dans du bois qui a été perforé par les larves de longicorne, on se retrouve avec des pièces de bois là, qui ressemblent un peu à du fromage suisse, si on veut. Dans le fond, il y a une perte de valeur sur le marché de ce bois-là. C'est ce qu'on veut éviter. On veut éviter un certain nombre de trous et de profondeur de trous par pied linéaire. Savoir combien de trous il y a au pied linéaire. Ça nous permet d'être capable de déterminer la qualité du bois qu'on est en train de récupérer.
Le directeur explique que seules les basses températures peuvent arrêter cet insecte nuisible.
L'automne qu'on connaît présentement, les vagues de chaleur, c'est exceptionnel. Et c'est plaisant pour les villégiateurs, c'est plaisant pour passer des beaux week-ends. Mais au niveau du longicorne, ce qui va le freiner, c'est la gelée, c'est les températures froides. Donc présentement, il n'est pas en dormance, il est en train de travailler.
Jean-Philippe Étier mentionne également que la récolte de bois brûlé nuit à la productivité des entrepreneurs forestiers.
Pour ce qui est des équipements, il y a une maintenance beaucoup plus fréquente à effectuer. Donc, il y a des changements de filtreurs, du nettoyage, du graissage, la cendre, la suie peut endommager les équipements. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que quand on parle d'intervention mécanique plus fréquente, on parle de ralentissement de cadence. Donc, au niveau de la productivité, ça a un impact.
La récolte du bois brûlé représente donc plus un devoir qu'une opportunité pour les entreprises puisqu'elle facilite à terme la régénération des forêts.